Knowledge is power.
Mm.
Et je vais même rajouter que self-knowledge is power. Mm-hmm. Et pour les afrodescendants, knowledge, la connaissance de son histoire, c'est quand même quelque chose de capital,
mm-hmm,
qui est peu connu.
Bienvenue au podcast Sebeni Ni Tama, une émission inspirante qui explore le parcours de vie, les histoires de femmes leader, tout en encourageant la connaissance de soi, la réappropriation de nos propres histoires. Il s'agit de conversations intimes et engagées, où nous parlons bien-être, santé mentale, vie professionnelle, entrepreneuriat, littérature, art, culture.
Salut Bansoa!
Salut Dinama!
Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Pour nous deux, c'est assez spécial parce qu'en fait, on avait déjà enregistré il y a un an à peu près. Ce sont fait qu'il y a des problèmes techniques, mais c'est pas plus mal de se retrouver ici à Brazza, au Brazzaville Records.
Exact.
Tu es anthropologue, muséologue, curatrice, présidente de Sankofa, l'association panafricaine pour les arts et la culture. Mm-hmm. On va parler un peu de tout ça.
Mm-hmm.
On va s'intéresser avant tout à l'impact que peut avoir la culture et les arts. On va bien sûr s'intéresser à ton engagement, la créativité, ton parcours personnel, familial, plein de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir comment tu vas, comment ça va aujourd'hui. On a eu également des problèmes techniques aujourd'hui, décidément, mais bon.
Bah écoute, c'était vraiment que coûte, on devait le faire. Malgré les adversités, on devait le faire. Et mon parcours, c'est aussi ça, c'est un peu malgré les adversités, bah, je vais le faire. Merci déjà de m'avoir invitée. Je suis hyper honorée. Et je découvre un superbe endroit, un nouvel endroit à Genève. Donc, oui, comme quoi cette ville regorge de petits lieux, des pépites, quoi. Il y a vraiment des pépites à Genève.
Mmh.
Et c'est aussi une chose qu'on essaye de mettre en avant avec notre association Sankofa. Les pépites qu'il y a sur Genève dans le cadre roman en général. Et voilà, tu m'as présenté en étant en disant donc que j'étais anthropologue, muséologue. Et bah, ces différents labels que j'ai liés à ma formation académique, donc mes masters. Et puis là, je fais une thèse en histoire de l'art et en géographie culturelle. Mais tous les différents éléments que je fais, c'est... Tout est axé vers la promotion, la valorisation des cultures et des arts d'Afrique. Donc que ce soit par l'angle de l'anthropologie, de la muséologie ou bien l'angle associatif.
Mmh. Non, complètement, il y a comme une ligne directrice qui est assez claire et assez vif dans ton parcours.
Mmh.
Moi, j'aime bien revenir à la source pour mieux comprendre le parcours de quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment important cette période où on se construisait, l'enfance, l'adolescence surtout. Bansoa, la petite fille, Bansoa, l'ado, quels étaient ses plus grands rêves, ses rêves les plus fous? Parce qu'en général, à ces âges-là, on n'a pas de limites.
Mm-hmm.
Quels sont les trucs vraiment qui te passionnaient, qui étaient importants pour toi?
Là, tu vas au fond, quoi. Là, tu vas au cœur.
On commence dur.
On commence dans le dur. Dans ce qui est vraiment important, là, on se met pas, les moments, on se met pas de limites. Bon, déjà, une chose, quand j'étais petite, on m'appelait la science.
Pourquoi?
Donc, parce que j'avais mon mot à dire. Je pensais que je savais tout, mais souvent, je savais beaucoup. Donc, on me reprenait, mais on disait, ah bon, ça, la science. Elle a toujours sa science à venir donner.
Mm-hmm.
Donc, quand j'étais petite, une chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'était de suivre le parcours de mon père.
Mmh.
J'admirais beaucoup. Et voilà, je me suis toujours dit, ah, vraiment, suivre ses traces, rentrer dans son tracé.
Mmh.
Mais aller au-delà. Donc, c'était quelque chose que je me rappelle assez précisément de ça.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton père?
Alors, vraiment, c'est pas pour rien aussi que je voulais suivre ses traces, parce que c'est une grande figure de Genève, de la Suisse en général. Pourquoi? Parce que c'est le premier médecin africain établi en Suisse. Donc à son compte. Pas le premier médecin africain en Suisse, mais établi à son compte avec un cabinet, en tout cas en Suisse romande. Et c'est quelqu'un qui, on parlait d'adversité au début, qui a un parcours de vie qui est vraiment de l'ordre du périple, de l'épopée, qui est parti du village dans la précarité la plus totale, pour arriver par la force du travail, son intelligence, sa capacité à se développer et le fait qu'il ait une communauté autour de lui qui est misée sur lui. Donc, c'est-à-dire son frère qui vraiment a pris, qui s'est vraiment investi pour que lui réussisse. C'est-à-dire ses tantes qui ont été là pour le faire voyager dans différentes villes pour qu'il puisse obtenir des bourses, etc. Pour que finalement, il puisse à l'âge de 19 ans arriver en France, donc dans les années 60, j'imagine, c'est justement la première volée de ces, une des premières volées de ces jeunes Africains qui viennent pour étudier la médecine, qui découvrent le froid du nord de la France, parce qu'il était dans le nord de la France. Et puis, après des études de médecine, il rentre au Cameroun. Et après son passage à Yaoundé pendant un moment, donc il a fini et sa médecine et sa chirurgie, parce qu'il était chirurgien. Et on est dans une période qui est politiquement extrêmement tendue au Cameroun, et il doit s'exiler. Et il arrive, en fait, donc son parcours fait France, Cameroun, et puis il arrive en tant que réfugié, en fait, en Suisse, dans les années 70. Donc, c'est là que son parcours helvétique commence. Et puis, où c'était un des premiers chirurgiens de l'hôpital de la Tour à Genève. Puis, il ouvre sa propre pratique. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va diversifier aussi son offre médicale. Dans le sens, c'est quelqu'un qui il a fait médecine du sport. D'accord. Il était médecin du sport pour les hockeyeurs à un moment. À Genève, il a fait différentes spécialisations, mais qui allaient de la chirurgie à l'homéopathie. Donc, il a vraiment une perspective plurielle sur la médecine allopathique pour traiter différents types de problèmes. Et puis, c'était aussi une ressource pour les afrodescendants de Genève et de Suisse. Où, automatiquement, on envoyait les personnes chez un médecin, des personnes africaines qui venaient chez un médecin africain. Parce qu'il y avait, des problématiques que peut-être lui allait mieux comprendre, ou pouvait avoir plus d'empathie du fait qu'il avait peut-être vécu des choses similaires. Et puis, l'autre élément qui fait de lui quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est le fait, c'est dans sa personnalité, dans sa manière d'être, mais aussi le fait d'avoir vu dans la culture, dans les arts et la culture, une des clés, un des outils de prise de confiance en soi des Africains.
D'accord.
Donc, il a collectionné, il est un grand collectionneur d'art, et puis il a aussi cofondé. Donc là, je parle beaucoup de mon père, mais c'était grâce à l'alliance avec ma mère. Ça, c'est important à préciser, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Mais bref, il a
Tout ce qu'il a fait, c'était avec le soutien, l'aide, on va dire, de ta mère. C'est ça que tu veux dire? En tout cas, en coopération avec ta mère?
Oui, dans le sens où c'est la co-création de leurs deux esprits, de leur vision qui se mettent ensemble, qui fait que il est allé dans cette voie, où il a pu développer dans cette voie, c'est-à-dire qu'elle était là pour aussi l'orienter dans la manière d'accomplir, lui, sa vie.
D'accord. Et si on revenait à, bon, c'est à la petite fille et l'ado.
Ah, t'avais pas oublié?
Non.
Alors, je voulais que tu oublies.
Non. On peut pas, je peux pas oublier. Je sais que ton père, enfin, bien sûr, il occupe une place très importante et ça permet aussi de mieux comprendre.
Mm-hmm.
Mais tu n'as pas répondu à ma question.
Alors, pour répondre à ta question, je suis une petite fille qui prend des risques, qui se dit « mais comment est-ce que je vais faire pour voyager le plus possible ?» Ouais, j'avais vraiment un rêve de voyager et comme je te disais, j'avais aussi un rêve de pouvoir suivre les traces de mon papa. Donc, lui était chirurgien, moi je voulais être neurochirurgien.
Mmh.
C'était une des premières choses, mais neurochirurgien, je savais pas du tout ce que c'était, hein, 5 ans.
C'était sexy, juste, en fait.
Voilà, c'était juste chirurgien, mais plus.
Mmh, ouais.
Tu vois? T'es.
Alors, si on est afrodescendant ou pas afrodescendant, parce que, au final, on vit au sein d'une société qui, avec une culture qui tend à être très homogène, sans vraiment s'intéresser à l'autre. C'est important pour tout le monde de s'intéresser. Selon moi, c'est important pour tout le monde de s'intéresser à l'art et aux cultures africaines. Alors, si on veut vraiment faire ce travail pour en apprendre davantage sur nous-mêmes, parce qu'on se rend compte que nos références, elles nous correspondent, elles correspondent pas à qui on est, ou on veut en apprendre davantage parce qu'on veut avoir une vision plus globale des personnes avec, enfin, de la société dans laquelle on interagit, c'est assez compliqué parce que c'est pas vraiment ce qui est le plus accessible, on va dire. Quels sont, toi, tes conseils pour, justement, commencer à en apprendre davantage, s'élargir l'esprit par rapport à l'art et la culture africaine de manière générale?
Alors, c'est une très bonne question.
Parce que t'as bien là-dedans. Pas tout le monde.
Exactement. Exactement. Et je le vis vraiment comme une chance parce que j'ai baigné de là-dedans, mais tu sais, les choses qui sont familières, des fois, tu les prends comme acquises. Donc, comme j'ai baigné là-dedans, j'ai dû avoir aussi une réflexion pour vraiment m'intéresser plus profondément à un certain moment et voir comment ça pouvait être bénéfique et utile à mon développement personnel et au développement de ma communauté. Et du coup, je dirais plusieurs choses. Déjà, premièrement, un exercice assez difficile à faire, on va dire, parce que ça prend quand même du temps et ça prend une ouverture d'esprit, c'est de faire son arbre généalogique. Donc, s'ancrer déjà dans... S'ancrer dans une transmission. Après, ça ne veut pas dire se reconnecter à toute sa famille, non. Mais c'est déjà de comprendre et d'aller faire son arbre généalogique. En faisant son arbre généalogique, ça nous pousse à poser des questions, en fait, à certains membres de la famille et découvrir qui, eux, ils sont. Et en fait, ça peut nous donner aussi des pistes sur nous-mêmes. Et des membres, genre, qu'on pourrait... Une tante, comme ça. Des personnes à qui, en fait, on parle pas vraiment. Qu'on connaît, qu'on côtoie, mais que quand on leur parle, on voit la richesse qu'eux, ils ont. Et surtout, ben, les anciens, de savoir comment... Qu'est-ce qu'eux, ils ont appris. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils sont comme ça. Et ça nous permet aussi de faire un travail de compréhension, d'empathie, de comment, pourquoi l'autre il est comme ça. Et après, ça peut aussi nous aider, du coup, sur nous-mêmes, de nous dire, ah ben voilà, les réactions que j'ai eues sont dues à ça, ou bien, bref. Donc, d'essayer de faire un arbre généalogique. Donc, pour faire l'arbre généalogique, je propose de faire comme ils font traditionnellement les enfants font. Mais ça, c'est... mon tonton Cruz et Yann Chama qui m'avaient dit ça. Pour les enfants, quand ils ont 8 ans, ils doivent savoir qui sont, dans un arbre généalogique, leurs deux parents, leurs 4 grands-parents et leurs 8 arrière-grands-parents. Voilà. Donc ça, ce sont les 8, 4, 12, plus 2, 14 personnes. Si on arrive déjà à trouver une partie de ces gens-là. s'ancrer dans son arbre généalogique. Deuxièmement, c'est peut-être faire appel à quelqu'un, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont des références. L'arbre généalogique, c'est pour savoir ses racines, mais il y a des personnes qui sont des références dans un domaine. Donc, demander à ses parents, demander à ses amis, à des personnes de la communauté, mais qui connaît bien ça dans notre réseau. Et aller vers cette personne et puis engager une relation de mentorat, par exemple. Et puis, la dernière solution, ça serait, en tout cas par rapport aux arts et cultures, de demander conseil à une professionnelle.
Moi, ça va.
Et là, je suis en train, en fait, d'essayer de mettre quelque chose en place avec Nuola. Donc, c'est sur nuola.com. Et...
on va revenir sur Noah là.
Digital.
Ok.
Pour en apprendre plus sur les arts et la culture, mais à travers une perspective d'afro-descendante de Suisse.
D'accord, intéressant. Et est-ce qu'il y a des livres ou peut-être des documentaires qui t'ont particulièrement marqué, que tu as trouvé qu'ils ont été vraiment très bien écrits ou très bien documenté, que tu peux recommander aux personnes qui nous écoutent, en tout cas, pour commencer à faire ce
travail,
voyage. Ouais.
Ce voyage. Alors, tout dépend de ce qu'il recherche dans ce voyage. On parle beaucoup, et pour moi, c'est aussi une des grandes références de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail vraiment de longue haleine et tellement substantiel sur la reconnaissance du fait que l'Égypte antique, c'était une Égypte noire. Et quelque chose qui paraît l'Égypte antique, donc de plusieurs dynasties, hein, parce qu'il y a des dizaines de dynasties. Mais en tout cas que les premières dynasties et celles qui sont les dynasties qui ont créé et qui ont formé la civilisation égyptienne, qui après s'est mélangée et qui après a subi beaucoup de transformations comme toutes les civilisations, est une Égypte noire. Et donc ça, c'est le travail qu'il a essayé de faire au niveau d'anthropologie physique, donc en travaillant sur des ossements, qu'au niveau d'anthropologie linguistique, donc du lien entre les langues pharaoniques et puis les langues africaines actuelles, notamment le Wolof du Sénégal et le Bassa au Cameroun, bref, différentes langues où il faisait le lien, lui et Théophile Obenga. Donc pour ce travail déjà de comprendre que les civilisations antiques qui sont révérées à travers le monde comme l'Égypte et qui d'où l'ensemble de la planète en fait puise des ressources, ben, c'était aussi des Africains. Donc ça c'est pour ça que je trouve que de commencer avec Cheikh Anta Diop c'est assez fondamental.
Et pourquoi on ne le dit pas ça?
Qui ne nous le dit pas et est-ce qu'on est prêt à faire ce travail? Je pense que la première des choses, c'est que, et comme j'avais dit avec l'arbre généalogique, c'est difficile et il faut de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que il faut qu'on soit prêt à faire du travail. Et ça, c'est une valeur fondamentale chez les Bamileke. C'est fa'abon, c'est le travail, c'est bien.
Comment on dit ça?
Fa'abon.
Fa'abon.
Fa'abon. Donc, le travail, c'est bien. C'est se dire que les choses ne vont pas venir facilement, forcément, mais juste de se dire, d'être enthousiaste, de se dire, ah, il y a un travail à faire. Et chaque jour, de pouvoir faire ce travail-là, c'est déjà une chance. Après, je dirais, au niveau culturel, au niveau des musées, au niveau des expositions, etc., il y a là une très grande richesse de savoir par rapport à qu'est-ce qui se faisait avant.
Mmh.
Et d'aller chercher cette information.
Magnifique. Mmh. Donc présentement, tu es muséologue et tu l'as dit plus tôt que tu poursuivais un doctorat en histoire de l'art et...
géographie culturelle.
Et géographie culturelle.
Mmh.
Pourquoi, en fait, avoir... Parce que quelque part, tu as comme, je ne sais pas, environ 10 ans d'expérience, je pense, dans la muséologie. Pourquoi est-ce que tu as voulu renforcer ton parcours avec ce doctorat? Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte?
Merci pour cette question. Écoute, le doctorat que je suis en train de faire, il est spécifiquement sur le matrimoine culturel africain.
Mmh.
Et donc ça, c'est quelque chose qui a pour le moment jamais été étudié. Mmh. Et pour moi, c'était essentiel, mais absolument capital, qu'on comprenne maintenant qu'est-ce que ça veut dire l'héritage des femmes dans les collections ethnographiques.
Mmh.
Qu'est-ce qui reste, en fait, de cet héritage?
Mmh.
Quelle est la place des femmes? Et j'ai commencé avec cette thématique parce qu'à la base, dans les musées, tu vois, surtout dans les inventaires, il y a très peu d'informations sur ça. Tu vois, surtout que c'est des objets de femmes ou bien que c'est interdit aux femmes. Et ce truc interdit aux femmes que je revoyais tout le temps, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est un peu en dissonance avec ce que je vois, la réalité de ce que je vois des femmes quand je suis au Cameroun, par exemple.
Interdit aux femmes, tu le voyais où?
Interdit pour des descriptions d'œuvres, par exemple. Parce que il y a beaucoup, comme je te disais au début, il y a beaucoup d'œuvres du patrimoine culturel africain, ou matrimoine
mm-hmm.
culturel africain, qui font partie, dans leur contexte de production, de rituels et de société au sein de la société.
Mm-hmm.
Donc de groupes au sein de la société.
Mm-hmm.
Et c'est des groupes dans lesquels il faut être initié pour rentrer.
Mm-hmm.
Donc, tu vois beaucoup de interdit aux femmes, interdit aux femmes, interdit aux femmes, ou bien mmh. deux femmes, deux femmes, deux femmes.
D'accord.
Mais les femmes sont complètement invisibilisées
mmh.
et semblent être un peu juste des victimes collatérales,
mmh.
voilà, des citoyennes de seconde zone, voilà. Et donc, pour moi, c'était essentiel, en fait, de raconter l'histoire. Et puis de rechercher, en fait, sur l'histoire réelle de,
mmh.
de cela.
De ces femmes. Magnifique. On n'a pas... Je voudrais qu'on parle un peu plus de Sankofa et de Noala. Donc, faites. Et présentement, qu'est-ce que vous faites? Enfin, comment est-ce que... Est-ce que tu peux me dire un peu plus par rapport à vos activités et vos activités passées, vos activités actuelles? Et si on a envie d'être membre, comment ça se passe?
Alors, déjà, le plus important, si vous voulez être membre, panafricanart.org.
Encore si une fois. Si vous l'avez pas compris.
panafricanart.org. Il y a devenir membre.
Mm-hmm.
Donc, ça implique une cotisation annuelle qui nous permet de mettre justement en place les différentes activités, les différentes choses qu'on fait et qui vous donne aussi accès à des choses comme la visite virtuelle dont je parlais tout à l'heure.
Mmh.
Donc, on est une association de différentes personnes qui sont du monde des arts et de la culture, des architectes, d'autres muséologues, d'autres conservateurs ou curateurs, ou des personnes en tout cas intéressées, des jeunes afrodescendants qui sont intéressés par ce monde des arts et de la culture.
Mmh.
Pas forcément... même pas forcément qui eux-mêmes sont des professionnels,
mm-hmm.
mais qui ont un fort intérêt. Et donc, du coup, là, on est 7 membres du comité.
Mm-hmm.
Et la chose qu'on aime commencé à faire depuis 2020, c'est cette revue qui s'appelle la Sankosphère et qui est disponible sur www.panafricanart.org. Et
Instagram et Facebook aussi, hein, c'est important.
Merci, exactement. Sur Instagram, c'est donc @sankofa.panafricanart. Et puis sur Facebook, c'est @sankofa.panafricanart également.
Je laisserai tout dans la description.
But, c'est de pouvoir visibiliser et de mettre en avant le travail artistique et culturel des afrodescendants sur la scène romande notamment, mais aussi au-delà. Et puis de donner une perspective, notre perspective en fait, sur la scène culturelle et puis de faire communauté. En fait, de faire communauté et puis d'échanger et de proposer en fait d'entrer dans ce monde de la culture et des arts.
Excellent.
Comment nous on le voit.
En plus, on parlait de ça avant, de bah, si on est intéressé, on veut en savoir plus sur la culture et les arts africains, bah, rejoindre une association telle que Sankofa, c'est un endroit privilégié pour ça.
Mais absolument, absolument. Et ce qu'on valorise principalement, c'est aussi la création individuelle. Beaucoup de personnes qui participent à la revue, et vraiment, je les remercie infiniment pour leur participation. On est hyper heureux d'avoir pu mettre leur travail en avant. Et beaucoup d'entre eux sont pas forcément... des artistes en tant professionnellement des artistes, mais qui vivent la création dans différentes formes, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la photographie. La Sankosphère a permis de mettre en avant leur travail, donc n'hésitez pas, pas du tout. Les contributeurs sont vraiment les bienvenus.
Donc en fait, ça met en avant, non seulement en avant les pépites, les endroits comme là où on est aujourd'hui, mais également en avant bah, les pépites, les individus, les personnes.
T'as tout dit.
Excellent, en tout cas. Et qu'en est-il de Noala? Parce que alors, Noala, c'est ton entreprise. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Noala, le travail que tu effectues au sein de Noala, que tu as créé il y a peu de temps, il me semble?
Exactement. Et en fait, c'est un travail en construction et qui est en train de se réinventer avec le temps Covid. Parce que, premièrement, c'était apporté au niveau des institutions, donc notamment des écoles, une nouvelle lecture sur les arts et les cultures d'Afrique, donc à travers des ateliers pour enfants.
Excellent.
Et malheureusement, avec le Covid, ben, il n'y a plus la possibilité de faire ces ateliers. Donc, la prochaine proposition de Noala, c'est une formule digitale et quelques ateliers, mais qui ne seront plus dans les institutions, mais plutôt dans des locaux privés. Donc, il y aura toute une programmation Noala... des ateliers Noala qui arrivent, en tout cas qui seront disponibles sur le site le www. J'ai la professionnelle des triple W. www. World Wide Web. Noala.com. Donc, Noala, c'est tradition et transmission.
D'accord.
Dans ma langue. Le Ngamba. C'est en fait une contraction de Noala et de là, le chemin et les choses du village. Donc c'est combiné. Ou le chemin au village. Le chemin au village. Voilà, c'est www.noala.com. Et là, il y aura une programmation des prochains ateliers.
Donc, écoute, il y a beaucoup de créatifs, beaucoup de personnes qui aiment beaucoup entreprendre. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Surtout que tu... l'association, tu... T'es née là-dedans, on va dire. Mais ton entreprise, c'est récent. J'aimerais juste savoir quelles sont peut-être les leçons que t'as... On va parler plutôt de Noala, à ce moment-là. Des leçons que t'as tirées de ton aventure avec Noala, en fait, qui est tout...
Les choses fondamentales pour le moment, que avec ma petite expérience, que je dirais, c'est l'adaptabilité. Et puis, c'est en fait un conseil que je me donne à moi-même, là, de savoir se réinventer, de savoir se relever. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est essayer des nouvelles choses et savoir rebondir, pouvoir encaisser l'échec, pouvoir encaisser aussi que les personnes ne soient pas forcément réceptives à ce qu'on propose. Et puis, c'est en fait être patient. Et puis résoudre un problème. Résoudre un problème. Donc pour moi, comme je fais un peu quelque chose de similaire mais sous différentes formes, ma difficulté principale, comme tu m'as, je pense que tu m'as posé une très bonne question, c'est de savoir genre, mais comment est-ce que tu distingues par rapport à ce que tu fais au niveau associatif ou qu'est-ce que tu fais au niveau académique, etc. Chaque chose vient, les choses viennent nourrir les unes les autres, mais je voulais vraiment pouvoir être focalisée sur ce que je vis comme étant my value proposition, qu'est-ce que ma valeur ajoutée, et de pouvoir vraiment mettre toute mon énergie là-dedans, et ça veut aussi dire pouvoir en vivre. Et du coup, à travers Nola, je pense que je vais pouvoir trouver la proposition qui permettra à promouvoir le bien-être, et puis promouvoir la connaissance. La connaissance, c'est Jim Quick qui dit genre la connaissance, knowledge, parce que j'aime bien le motto de Nola, c'est que knowledge is power. Et je vais même rajouter que self-knowledge is power. Et pour les afrodescendants, knowledge, la connaissance de son histoire, c'est quand même quelque chose de capital qui est peu connu. Donc c'est...
Complètement.
C'est ça ma valeur ajoutée, pardon, c'est de renforcer cette connaissance de soi qui amène du coup à... meilleur être.
Oui, en fait, souvent, j'étais un peu stockée. Non. tu dis que, justement, ton approche, elle est ancrée dans la transmission. Donc, quand on pense à Sankofa, on pense au travail de curatrice et de muséologue, on pense à Nuala, on passe à ton doctorat. C'est vrai que quelque part, comme tu dis, chaque sphère se nourrit de l'autre sphère. Il semblerait, dans quelque chose que je remarque, c'est qu'on sent clairement dans une démarche de transmission. Est-ce que c'est ça ton message? Et aussi, la transmission, qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Mais tes questions sont juste... Point non.
Je fais juste des liens.
Ouais, non, tes questions sont là. oui, tout à fait, la transmission, j'aime à dire que je manque dans la transmission... Je manque pourquoi je dis que je manque dans la transmission, c'est que en fait j'ai vraiment la conviction qu'on n'invente rien, mais que on réinvente, on recrée, on utilise à partir de qu'est-ce qui a déjà été fait. Et c'est ça la richesse. C'est on part de ce qui a été fait pour se réinventer. Sankofa, c'est ce que ça veut dire. Sankofa, c'est aller puiser dans ses racines pour se projeter vers l'avenir. Nola, c'est ce que ça veut dire aussi. Prendre les choses du village pour cheminer. Et puis, pour le doctorat, c'est aussi ça. C'est comprendre l'histoire des interactions, du mode de collecte des objets pour maintenant rebâtir de nouvelles relations, de nouvelles dynamiques entre les peuples, parce qu'on est dans ce moment, en fait, au niveau mondial, où on parle beaucoup du patrimoine culturel africain, on parle de restitution, on parle de propriété. Et donc, c'est de se dire, ok, on est dans ce mode-là et il faut qu'on le fasse en comprenant d'où on vient. c'est aussi ce travail-là que... Donc, le transmettre au plus grand nombre, et surtout à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin de le comprendre, de l'intégrer.
Complètement. Merci beaucoup, bonsoir.
Merci à toi.
Et une dernière question pour finir. Dis-moi, on a parlé de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ?
D'aller à l'essentiel et d'avoir l'impact bénéfique pour ceux qui en ont besoin.
Sur ces beaux mots, on va se dire au revoir et je te remercie de nouveau. C'était une excellente expérience.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci à Steph pour la production. Un grand merci également à Beth et Patricia pour la musique. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations et références en barre de description du podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ou moins, vous pouvez laisser vos notes sur Apple Podcasts ainsi que vos impressions. Je vous invite également à laisser vos remarques, questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucun épisode de podcast ou article de blog.